L'association chrétienne Centre d'évangélisation Esprit et Vie, située au 244 avenue de Thouars à Talence-Bordeaux, a le plaisir de vous livrer ce message qui transformera votre vie.
Notre vision est d'apporter la puissance de l'Évangile au monde par le Saint-Esprit, afin de vivre une vie épanouie et affranchie de toute servitude pour être des adorateurs que le Père recherche.
Pour tout renseignement, veuillez nous contacter à l'adresse suivante
ceev.talence@hotmail.fr.
Développer une relation personnelle avec Dieu. Aujourd'hui, si des hommes et des femmes se lèvent pour prier en faveur d'une nation, en faveur de leur famille, de leur église, c'est parce qu'ils croient quelque part que Dieu est capable de répondre à leurs prières. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne réalise que lorsqu'on développe une communion avec le Seigneur. Si aujourd'hui tu as appris à faire confiance au Seigneur, c'est parce qu'il y a des choses que Dieu a faites dans ta vie qui t'amène à lui faire confiance. Alléluia. Et pour parler de relations personnelles avec le Seigneur, j'aimerais qu'on lise ensemble Éphésiens 4. La Bible déclare, « Afin que vous aussi, vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tychique, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous, avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. » Éphésiens 4, 21. Alors, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La Bible déclare dans Matthieu 8, « Produisez du fruit digne de la repentance. » Et je pense que c'est un verset spécial lorsqu'on parle de conversion, au verset 24 particulièrement, « Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Et c'est important de manifester, comme je le disais dans le passage de Matthieu 3, 8, la Bible déclare « Produisez du fruit digne de la repentance. » Et souvent, on cite ce verset lorsqu'on parle de la conversion. Au moment de la conversion, on est celui qui a connu le Seigneur, qui s'est repenti, qui est né de nouveau, et maintenant, il marche en nouveauté de vie. Il manifeste les fruits de l'Esprit, parce que la Bible dit « Produisez du fruit digne de la repentance. » Le même passage dans la version Semeur dit « Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. » Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Et lorsqu'on parle de conversion, on insiste souvent sur le fruit que le chrétien manifeste. Pourquoi ? Parce que c'est le fruit qu'il manifeste qui atteste s'il est converti ou pas. Et souvent, on retrouve beaucoup de personnes dans nos églises qui ont entendu parler du Seigneur, mais qui ne sont pas forcément nés de nouveau, ou qui sont nés de nouveau et qui ne se convertissent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils aiment le monde, comme un Jean dit. Ils aiment les choses qui sont dans le monde, comme la Bible dit dans 1 Jean. Et la Bible, ce soir, nous encourage à produire du fruit digne de la repentance. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible de produire du fruit digne de la repentance si on n'a pas de relation personnelle avec le Seigneur. On retrouve souvent des chrétiens qui marchent très bien pendant 5 ans, pendant 2 mois, pendant 3 mois, et à un moment donné, ils chutent. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y a manqué de relation avec le Seigneur. Ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas parce qu'on s'est converti il y a 5 ans, il y a 2 mois, il y a 3 mois, qu'aujourd'hui, on est capable de produire toujours et toujours du fruit digne de la repentance. Si on ne s'accroche pas à celui qui nous a appelés, on n'est pas capable de demeurer dans la conversion et de changer, de montrer par nos actes que nous avons changé de vie. Ce n'est pas possible. D'où l'importance de parler de la communion, de la relation personnelle avec le Seigneur. Pourquoi est-ce qu'on parle souvent du culte personnel ? Pourquoi est-ce qu'on parle souvent de la méditation de la parole de Dieu ? Pourquoi ? Parce que, premièrement, notre esprit en a besoin. Et j'aimerais que quelqu'un lise Ésaïe 26 au verset 9. Et une autre personne va prendre le psaume 4 à partir de le psaume 27 du verset 1 au verset 4. Ésaïe 26, verset 9, la Bible déclare: mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Et le psaume 27 dit: je désire, il y a quelque chose que je désire au plus profond de moi. Je voudrais habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, pour pouvoir demeurer enraciné dans la présence de Dieu ou encore revêtir l'homme nouveau comme Éphésiens le dit, c'est important que chacun de nous, on ait une relation personnelle avec le Seigneur. C'est important qu'on apprenne à développer surtout cette relation. Pourquoi? Parce que dès l'instant où on a reçu le Saint-Esprit, on a déjà une relation avec Dieu. Mais c'est encore plus important de développer cette relation avec le Seigneur. Aujourd'hui, on constate, en regardant la télévision, on regarde ce qu'on appelle souvent dans le monde chrétien les grands hommes de Dieu. Pour ceux qui chantent, par exemple, ils aiment souvent regarder les DVD ou ceux qui dansent. Et ils aiment dire: j'aimerais ressembler à telle personne. Pourquoi? Parce que la personne qui regarde le DVD estime qu'elle n'est pas encore arrivée à ce niveau. Il y a différentes dimensions dans les relations la relation qu'on peut entretenir avec Dieu. Et si d'un chrétien à l'autre, cette relation varie, c'est que quelque part, il y a un acte que l'un a posé, que l'autre n'a pas forcément posé. Et l'objectif de cet enseignement ce soir, c'est de nous amener à aller plus loin dans ce qu'on estime avoir acquis. Souvent, quand on se lève, et dans notre esprit, on est chrétien. On est toujours chrétien. C'est un acquis pour nous. Seulement, la Bible déclare que celui qui est debout prenne garde de tomber. Si aujourd'hui, tu as fait 3 heures de prière, ça ne veut pas dire que demain, tu vas en faire 4. Seulement, la Bible déclare que je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi? Parce que quelque part, je me dis que je dépends de Dieu, alors je vais m'accrocher à lui. Et à chaque fois que je me lève, je me dis, encore une fois, je prie tout par celui qui me fortifie. Encore une fois, je vais m'accrocher au Seigneur. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je veux dépendre de ce Dieu. Pas compter sur mes 3 heures de prière d'hier, faire des réserves et dire que je vais vaincre avec les réserves que j'ai accumulées. Non, mais encore me lever et dire, je prie tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Et pourquoi le Seigneur nous incite par sa parole à développer une communion personnelle avec Dieu? Comme je le disais tout à l'heure, notre esprit en a besoin. Lorsqu'on lit Ésaïe, la Bible dit: mon esprit au-dedans de moi soupire après l'Éternel. Pourquoi? Parce que c'est notre esprit qui est à l'image de l'Éternel. Et il soupire après l'Éternel. De la même manière qu'un enfant qui vient de naître a besoin du lait maternel pour vivre, de la même manière, nous, on a besoin de ce qui est dans Dieu pour pouvoir vivre, pour pouvoir continuer à grandir dans sa présence. C'est pour ça que notre esprit a besoin d'être en contact avec le Seigneur. Pourquoi il y a des moments où, quand on manque de prière, on sait au-dedans de nous qu'il manque de prière? Parce que notre esprit a besoin de respirer. Il a besoin de vivre, alors il soupire après des temps de prière. Il soupire après des temps d'adoration. Et c'est ce que notre esprit, si vous arrivez à un moment donné à vous rendre compte que pendant 2 jours, 3 jours, vous n'avez pas prié, et ça ne vous dérange pas, vous êtes déjà en danger. Vous êtes déjà en danger. Et peut-être que le diable vous a déjà vaincu quelque part. Il suffit juste d'analyser votre journée, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est tout. Et vous saurez que quelque part vous avez été vaincu. Pourquoi? Parce qu'il y a manqué quelque part de relation personnelle avec le Seigneur. Et le culte personnel est le moyen par excellence pour demeurer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans ces temps particuliers où on se retrouve seul, coupé de tout, et on se dit que l'Éternel est mon Dieu. Plus le Dieu de Siv, Talence, où on est dans la joie tous ensemble en train de célébrer le Seigneur, en train d'écouter la parole. Non, l'Éternel est mon Dieu. Et c'est dans ces temps secrets-là que je veux découvrir mon Dieu pour aller plus loin dans ma relation personnelle avec lui. Et la deuxième chose pour voir l'importance de développer sa communion avec le Seigneur, c'est un passage d'Exode que j'aime bien lire. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble. Je ne vais pas lire toute l'histoire. Je vais lire quelques versets. Je lis à partir du verset 1. La Bible déclare: le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel, soi-disant. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. La boum ecclésiastique au milieu des enfants d'Israël. Ils ont organisé une boum lorsque Moïse était sur la montagne. La Bible déclare qu'ils se lèvent de bon matin. Très tôt, tellement excités, ils se lèvent de bon matin. Dès l'instant où ils ont fini de dresser leur Dieu, ils se mettent à offrir des holocaustes, des sacrifices. Et le peuple d'Israël a dans son identité, a dans sa culture, la notion du sacrifice. C'est très profond chez les Israélites. La Bible précise bien qu'ils offrent des holocaustes. L'holocauste était un sacrifice qu'il fallait brûler entièrement pour montrer au Seigneur que nous lui appartenons tout entier. Et lorsqu'ils dressent ce veau, la Bible dit qu'ils offrent des holocaustes à l'Éternel. Pour eux, c'est à l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont fait un Dieu. C'est désormais leur Dieu, celui qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Et lorsque le peuple s'avance vers Aaron, quand il parle à Aaron, il dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Le peuple d'Israël voulait ressembler aux autres nations. À chaque fois qu'il s'est égaré du Seigneur, il cherchait souvent à ressembler aux autres nations. De la même manière, lorsqu'il a revendiqué un roi à Samuel, ils ont dit à Samuel, nous voulons un roi comme les nations qui nous environnent. Pourquoi ? Parce que la nation d'Israël voulait ressembler aux autres nations. Pourquoi ? Parce qu'elle perdait son identité. Son identité se trouvait dans l'Éternel. Et la Bible dit, lorsque le Seigneur parle à Moïse, il lui dit, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes ? Ce n'est pas toi que le peuple a rejeté, c'est moi. Et de la même manière, il dit les mêmes paroles à Samuel. Ce n'est pas toi que le peuple rejette. Moi, je voulais qu'ils soient mon peuple, que je sois leur Dieu. C'est moi qu'ils rejettent. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a toujours voulu développer une relation avec l'homme. Aller dans une relation au-delà du Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. Non, il voulait être leur Dieu. Il voulait qu'il soit son peuple à lui. Seulement Israël, à chaque fois qu'il s'est égaré de la présence de Dieu, il voulait ressembler, prendre une autre identité. À chaque fois qu'on perd, on perd un peu le nord par rapport à notre relation avec le Seigneur. À chaque fois qu'on s'éloigne de la présence de Dieu, on cherche à ressembler à d'autres personnes. À chaque fois qu'on s'éloigne de la présence du Seigneur, on cherche à ressembler à d'autres personnes. On perd l'identité que Dieu nous a communiquée pour pouvoir ressembler à une autre personne. Et l'importance de développer notre relation avec le Seigneur nous permet à nous de lutter contre le péché. La Bible dit que le peuple d'Israël s'est assis, il s'est diverti. Diverti. Au-delà même du fait que ils se sont fait un Dieu. Ils se sont divertis. Ils sont tombés dans le divertissement. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Il arrive des moments où, lorsqu'on pense qu'on a assez prié, on cherche, la chair cherche à se reposer. Et là, on essaye de ralentir notre rythme de prière. On se lève un peu plus tard que d'habitude et on se dit, bon, depuis quelque temps, j'ai une vie de prière à fond. Je vais un peu me reposer. Ça ne vous est jamais arrivé? Je vais un peu me reposer. Ou j'ai assez jeûné comme ça, je vais un peu me reposer. Et à chaque fois qu'on se repose, je ne vais pas dire on se divertit, non. À chaque fois que la chair cherche à se reposer, à chaque fois on est tombé dans le laxisme. À chaque fois. Le Seigneur n'attend pas de nous qu'on soit des hommes et des femmes qui, chaque fois qu'ils prononcent un mot, c'est prier en langue, c'est chanter, c'est... Non. Dieu ne fait pas de nous des robots. Mais le Seigneur veut entretenir une relation avec nous. La Bible dit, connais ton Dieu. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Ça veut dire que de la même manière que tu te lèves le matin et tu sais que l'aurore est là, de la même manière, la venue du Seigneur est certaine. C'est pourquoi il faut commencer à le chercher. Et le peuple s'est diverti. Moïse était un peu le symbole de la présence de Dieu au milieu d'Israël. À chaque fois qu'on voyait Moïse, on savait qu'il avait une parole de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'était le gars au milieu du peuple qui savait parler avec Dieu. Le reste du peuple avait juste la nuée, la colombe, mais lui parlait avec le Seigneur. Et il était un peu le symbole au milieu d'Israël. Et dès l'instant où le symbole avait disparu, c'est comme s'il avait disparu lui avec la présence du Seigneur. Et souvent, on a une relation au niveau de l'église, une relation, je dirais, ecclésiastique avec le Seigneur. On se sent bien à l'église, on va intercéder à fond, on va prier plus fort que tout le monde, on va chanter plus fort que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension corporelle, il y a une plus grande dimension dans la prière, dans la louange. Pourquoi? Parce que tout le corps est rassemblé. Ça, c'est l'onction de Dieu. Seulement, le Seigneur ne nous amène pas à vivre une dimension ecclésiastique juste dans notre relation personnelle avec lui. Le résultat de ce qui se passe à l'église, c'est ce que chacun a vécu dans la semaine. Ça veut dire quoi? Toutes les fois où on se retrouve, les temps de prière sont très forts. Les temps de louange sont très forts. Ça veut dire qu'à chaque fois, c'est que dans la semaine, l'église a vécu des temps extraordinaires de prière et de louange. Ce n'est pas quelque chose qui se passe là sur place, non, bien aimé. C'est quelque chose qu'on prépare de façon personnelle. À chaque fois qu'on se retrouve dans une réunion, l'atmosphère qui prévaut dans la réunion reflète ce que nous, on a au-dedans de nous. Si j'ai eu des temps forts dans la semaine, bien aimé, lorsque je vais me réunir avec tous les frères, c'est juste des braises. Et on parle du feu, comme je disais la semaine dernière au Luxembourg. On ne parle du feu que lorsque toutes les braises sont rassemblées. Ce n'est pas quand il y a une braise qui se balade toute seule quelque part, non. On parle du feu lorsqu'il y a toutes les braises rassemblées. Et la dimension de prière, la dimension de louange, la dimension de révélation qui va reposer au milieu du peuple de Dieu va dépendre de ce qui se passe dans notre secret, dans notre relation personnelle avec le Seigneur. Si on est des hommes et des femmes de prière, l'église va être une église de prière. Si on est des hommes et des femmes qui sont des adorateurs, ben l'église va être une église qui adore le Seigneur. Si on voit le miracle se manifester, c'est parce que des hommes et des femmes soupirent après le miracle. Et pour revenir à Moïse, lorsque Moïse était sur la montagne en train de parler avec le Seigneur, il est en train de concevoir les règles. Dieu nous connaît tellement bien qu'il est en train de préparer les choses. Le peuple était en train de se divertir pendant que le Seigneur était en train de montrer à Moïse les règles qu'il fallait établir. C'était la preuve même pour Moïse que Dieu avait raison d'établir les lois. Il descend, il se rend compte que le peuple est en train de se divertir. On a oublié la présence de Dieu, on s'est fait un Dieu qu'on peut toucher, disaient les Israélites. Ils voulaient toucher Dieu. Pourquoi? Parce que Moïse était le symbole au milieu d'eux. Et comme ils ne savaient pas où Moïse était, ils se demandaient s'il était encore vivant. Ils voulaient toucher Dieu. Ils voulaient toucher la présence du Seigneur. Seulement, il y en a qui se perdent lorsqu'ils cherchent la présence du Seigneur. Ils pensent que c'est le frère. C'est le frère. Lorsque je me retrouve avec le frère, ces temps-là me suffisent. C'est comme si je fais des réserves. Je n'ai plus besoin de prier parce qu'à l'église, on a tellement prié qu'en rentrant le soir, je n'ai plus besoin de prier. Je rends grâce à Dieu pour la soirée, pour la journée et je dors. Non, bien aimé. Le peuple d'Israël avait envie de toucher Dieu, mais ils l'ont mal cherché. Ils n'ont pas bien cherché le Seigneur. Je suis sûr que si le peuple d'Israël recherchait le Seigneur, chacun cherchait à développer une relation personnelle avec Dieu. Il n'y aurait pas que Moïse qui parlerait avec le Seigneur. Parce que la Bible dit qu'il se laisse trouver. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et pour revenir à la conversion, c'est bien d'avoir des années de conversion. C'est bien de compter le nombre d'années de conversion. Mais c'est encore mieux de compter le nombre de temps qu'on passe dans la présence du Seigneur. Se dire que j'ai encore passé une heure avec le Seigneur, quelle victoire! J'ai encore passé 2 heures à méditer la parole de Dieu, mais quelle victoire! C'est encore mieux de compter ça. C'est ça les exploits qu'on doit faire en tant que chrétien. C'est ça ces exploits qu'on doit vivre chaque jour au quotidien. Ne pas reposer sur ses acquis. Ne pas se dire que j'ai passé une super semaine de prière, alors je peux me reposer cette semaine. Non, parce que le Seigneur a encore des choses à te dire. Donc la deuxième chose par rapport à l'importance de développer notre communion personnelle avec le Seigneur, c'est que le Seigneur nous amène à travers la communion personnelle qu'on développe avec lui à lutter contre le péché. À lutter contre le péché. La troisième chose se trouve dans 1 Corinthiens 10, au verset 20. Il y a quelque chose que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens qui ressemble à un scandale. Déjà, tout le livre des Corinthiens, l'apôtre est en train de reprendre un peu des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, des hommes et des femmes qui voient la manifestation du Saint-Esprit dans leur église. Il y a les dons spirituels. Tous les jours, quand ils se rencontrent, il y a la prophétie. Il y a une parole prophétique à chaque fois. Tous les jours, il y a un cantique inspiré. Seulement, ce sont des super charnels. S'il fallait faire un concours, c'était les Corinthiens qui étaient devant pour la chair, pour la manifestation des œuvres de la chair. Et l'apôtre Paul leur dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 20, « Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. » J'étais scandalisée quand j'ai relu ce passage. Si on n'est pas en communion avec le Seigneur, on est bien en communion avec quelque chose. Et j'espère que ce n'est pas les démons bien-aimés. Il est possible d'être en communion avec les démons. En communion. La communion nous amène à partager des choses. Et là, l'apôtre Paul fait cette remarque aux Corinthiens. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec des démons. On peut être en communion avec des démons ou encore en communion avec autre chose. Il suffit d'analyser votre journée. Dès l'instant où on n'est pas en communion avec le Seigneur, on passe du temps à faire autre chose que méditer la parole de Dieu. Autre chose que prier. Ça peut être passer du temps devant la télévision. Et dès l'instant où on est devant la télévision, on est en communion avec la télévision. Et lorsque vous vous rendez compte que vous êtes en train de prier et dans votre tête, il y a un film qui passe, les images que vous avez regardées à la télé, c'est simplement parce que vous étiez en communion avec la télévision. Ça semble bizarre, mais bien aimé, c'est la vérité. Si on n'est pas en communion avec le Seigneur, on est en communion avec autre chose que le Seigneur. Et le psalmiste était en train de dire dans le psaume 27, « Je voudrais toujours habiter dans ta maison. » C'est mon désir. Ça veut dire quoi? C'est pas se retrouver comme un moine, enfermé, 24 heures sur 24, non. Si maintenant le Seigneur vous appelle à vous renfermer pour un mois, 40 jours, je ne sais pas, vous le faites, que ça soit un appel simplement. Ne vous improvisez pas. Mais dès l'instant où vous êtes au travail, dans vos études, etc., vous avez la capacité d'être quand même en communion avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu est dans vos cœurs. Vous l'amenez partout où vous allez. Parfois, on l'amène même dans les endroits où il ne veut pas aller. Le Saint-Esprit est avec nous. Je vous assure, bien-aimés. J'aime bien ce chant en anglais. Il y a un chant qui dit le ciel. Quand on le traduit, ça veut dire le ciel est dans mon cœur. Les cieux, en fait. Les cieux sont dans mon cœur. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est dans mon cœur. La gloire de Dieu est dans mon cœur. Et partout où je vais, je promène avec moi la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Alors c'est très important pour nous qu'on soit en communion avec le Seigneur pour ne pas être en communion avec autre chose que sa présence. C'est important que l'on soupire après la présence du Seigneur. La quatrième chose que j'aimerais énoncer, c'est le but. Comme disait l'apôtre Paul, mon but c'est le connaître. Connaître Christ. Et j'aimerais lire avec vous Philippiens. Connaître Christ. C'est lui le modèle que nous suivons. Aujourd'hui, s'il y a l'église qui existe, on dit que c'est le corps de Christ. C'est important de connaître la tête. Philippiens 3, au verset 10. Si quelqu'un d'autre peut lire 1 Samuel 8, au verset 5. Établis sur nous un roi, comme il y en a chez toutes les nations. Lorsqu'on manque dans notre communion avec le Seigneur, la communion avec le Seigneur est un appel. C'est vraiment un appel qui retentit, un cri qui retentit dans le cœur de Dieu. Depuis que le Seigneur a créé l'homme, il a toujours voulu être en communion avec lui. Ça a toujours été le désir de Dieu. Le Seigneur a toujours voulu devenir l'ami de l'homme. Aller au-delà du Créateur, aller au-delà de cette relation, Créateur à créature, créature à créateur, mais partager les secrets du cœur de Dieu. La Bible déclare que les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Et il les révèle à celui qui le cherche. Et lorsqu'on développe notre communion avec le Seigneur, on apprend à connaître Christ. On apprend à connaître le Seigneur. On apprend à connaître la puissance de sa résurrection. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens dans l'église qui ne croient pas au miracle, même dans nos églises? Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas expérimenté la puissance de la résurrection du Seigneur. Ils n'ont pas fait cette expérience. Il y en a dans l'église qui souffrent, ils sont malades, ils n'ont pas foi que Dieu est capable de les guérir de cette maladie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience de la puissance de la résurrection de Christ. Bien-aimés, si on connaît Dieu simplement comme le Créateur, eh bien on va simplement passer notre temps à louer Dieu parce qu'il est le Créateur. Dès l'instant où dans notre relation personnelle avec le Seigneur, on commence à découvrir Dieu, il va opérer des choses extraordinaires dans nos vies. Pourquoi c'est important de chercher. Pourquoi est-ce qu'on met en place un programme de lecture de la parole de Dieu dans l'église? C'est pour que chacun de nous, ça nous aide à avoir une méthode. Pas seulement la méthode, Mais dire qu'aujourd'hui, je me suis arrêtée à tel endroit, je reprends à tel autre, à tel endroit. Pourquoi? Parce que je veux découvrir ce qui s'est passé par la suite. Chercher à découvrir ce que Dieu a fait depuis les temps. Pourquoi? Parce que sa parole, la Bible dit, elle est vivante. Elle est vivante et elle agit encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et Dieu veut qu'on le découvre encore aujourd'hui dans la dimension qu'Israël l'a connue. Celui qui est capable d'ouvrir la mer. Il y a un frère qui disait, mais comment est-ce que le Seigneur a fait? Quand les Israélites étaient en train de passer, est-ce que les poissons étaient suspendus? C'est à cause de ça qu'avec notre intelligence, on n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé dans le cœur des Israélites. Parce qu'ils ont vu des choses extraordinaires. Et on se demande comment ils ont fait pour se détourner du Seigneur. Comment ils ont fait pour traîner 40 ans dans le désert? Ils ont vu des choses extraordinaires. Ils ont connu Dieu comme étant le Dieu tout-puissant. Il a frappé les Égyptiens pour eux. Ils ont quand même crié sur Moïse parce qu'il manquait du pain. Seulement du pain. C'est une chose de lire la parole de Dieu. C'est une chose de passer du temps dans la prière. C'est une autre chose de découvrir Dieu. Connaître Christ, la Bible dit, est la puissance de sa résurrection. Il y en a qui connaissent Christ, qui ne connaissent pas pourtant la puissance de sa résurrection. Pourquoi? Parce qu'ils se sont limités là. Si Dieu m'a donné de la nourriture aujourd'hui, j'avais faim, il m'a donné de la nourriture. Je me limite à ça. Je pense que c'est la plus grande bénédiction, alors qu'il y a plus grand que ça. Et je loue tous les jours le Seigneur. Je fais le témoignage pendant 10 ans, 40 ans. Les autres sont même fatigués. C'est tout ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est le même témoignage qui revient. Pourquoi? Parce qu'il connaît Dieu seulement dans cet aspect. Mais la Bible déclare qu'il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et c'est ça le but, de développer sa communion personnelle avec le Seigneur. Découvrir Christ. Parce que c'est lui le modèle. Quand on ne connaît pas Christ, on fait tout comme le pasteur. On fait tout comme l'ancien de l'église. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas Christ. On connaît la personne qui nous le présente. Alors on cherche à ressembler à l'homme. On cherche à ressembler au frère. On cherche à ressembler à celui qui est dans le DVD. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le Seigneur. On cherche à ressembler à l'homme. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte, mais lui, il est vraiment arrivé, lui. Comment il a fait ça? Ce n'est pas des choses que Dieu a réservées à une personne. Ce n'est pas des choses que Dieu a réservées à un pasteur, non. C'est des choses que Dieu a réservées à toute personne qui le cherche. Point final. Le fait de manifester le miracle, de manifester une grande dimension dans la prière, dans l'intercession, etc., la prophétie, ce n'est pas réservé à un homme de Dieu, bien-aimé. C'est réservé à toutes les personnes qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Et j'aimerais terminer en disant que notre communion avec le Seigneur nous permet d'entrer et de découvrir notre destinée, de la vivre pleinement. Et j'aimerais qu'on lise ensemble dans Juges cette histoire de Samson, particulièrement les jours ou les mois qui ont précédé, surtout les mois qui ont précédé sa naissance. Il y a des choses qui se sont passées dans sa famille avant qu'il ne vienne au monde. Juges 13. La Bible déclare, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Encore une fois. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Et à chaque fois, ils souffrent 40 ans. Je ne sais pas pourquoi. Il y avait un homme de Toréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoa. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari, « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. » Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoac fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoac et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ. Et Manoac, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et lui dit, « Voici l'homme qui est venu l'autre jour vers moi, m'est apparu. » Manoac se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi, Jean. » Il fait l'homme dur, quoi. Est-ce toi qui as parlé à cette femme? Genre, qu'est-ce que tu lui veux, quoi? Il répondit, c'est moi. Manoac dit, maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoac dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoac, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets. Mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoac ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoac dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom afin que nous te rendions gloire? Quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux. La Bible nous relate une histoire assez extraordinaire. Samson n'est pas encore né et la Bible dit que c'est cette personne qui va commencer à délivrer le peuple d'Israël. Commencer. Et il y a quelque chose qui se produit, c'est que lorsque l'ange de l'Éternel se révèle dans cette famille, il commence à parler à la femme. C'est elle qui sera enceinte. La Bible dit qu'il s'adresse à elle et il lui dit que tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte. Avant de lire ce passage, je vous disais que notre communion avec le Seigneur nous permet d'entrer dans notre destinée. Elle nous permet de vivre notre destinée. La Bible nous parle de cette famille. La Bible nous dit qu'il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, qui s'appelait Manoac. La Bible dit qu'il y avait un homme. Au départ, c'est un homme quelconque. Après, on précise bien qu'il est de la famille de la tribu de Dan. Lorsque l'ange parle à sa femme, il n'est pas présent. Seulement, la Bible dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Et on se rend compte que ce n'est pas seulement à partir du Nouveau Testament que cette parole est vraie. Non. Manoac ne se contente pas de ce que sa femme lui a dit. Il repart dans la présence du Seigneur et il prie. Et il dit au Seigneur, permets que l'homme de Dieu que tu as envoyé vers nous revienne encore pour nous dire ce qu'il faudra faire cette fois-ci lorsque l'enfant sera né. Quand l'ange parle à la femme, il lui dit, tu seras enceinte, tu enfanteras. Cet enfant-là va délivrer Israël de ses oppresseurs. Il lui dit ce qu'elle doit observer pendant tout le temps où elle sera enceinte. Mais son père dit, moi j'aimerais que tu renvoies l'homme de Dieu pour nous dire ce qu'on va faire maintenant quand l'enfant sera né. Il ne se contente pas de faire ce que Dieu veut qu'il fasse pendant qu'il sera dans le sein de sa mère, non. Il veut savoir ce qui doit se passer dans la suite. C'est dans la présence du Seigneur qu'il demande ces choses. Et là encore une fois, Dieu ouvre le ciel. Il envoie un ange et il repart vers la femme pour parler. Et cette fois-ci, elle appelle son mari. Et ce qui est extraordinaire dans ce passage, c'est que lorsque le Seigneur leur parle, il leur dit au verset 13, « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Qu'est-ce que tu me veux ?» D'abord, il lui demande, « C'est toi qui parlais à cette femme ?» C'est toi qui parlais à cette femme ? Il dit, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. De tout ce que je lui ai dit. Il ne revient pas en détail quand vous lisez le passage. Il lui parle du vin, de liqueur forte, etc. Il ne revient pas sur tout ce qu'il a dit au préalable. D'où l'importance de noter ce que le Seigneur vous dit dans les lieux secrets. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne revient pas forcément. Il y a des gens qui se demandent souvent quand on prophétise sur eux. Il y a un prophète qui dit telle chose. Il y a un autre prophète, quand il passe, il dit telle autre chose. Après, tu as l'impression qu'il y a la confusion dans les prophéties. Finalement, est-ce que je vais être prédicateur dans toutes les nations ou bien en fait, je dois juste voyager? Est-ce que, pourquoi? Parce que tu n'as pas noté ce que le Seigneur t'a dit. Bien aimé, c'est très important. Parce que lorsque quelqu'un d'autre te dit ce que le Seigneur t'avait dit, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Parce que lorsque le Seigneur te parle, il y a une onction spéciale en cet instant bien précis qui est répandue sur ta vie. Et ce que tu comprends dans cet instant T, les autres ne le comprennent pas de la même manière que toi. C'est ta vie. Il s'agit de ta vie. C'est comme ça que les uns et les autres traduisent les prophéties, interprètent les prophéties. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont entendu d'une manière et toi tu l'as entendu d'une autre. C'est ta vie. C'est de ta vie qu'il s'agit. Et lorsque l'ange d'Éternel parle par la suite au verset 15, il dit au père de cet enfant, non, Manoac lui dit, Permets-nous de te retenir et t'apprêter un chevreau. » L'ange lui dit, « Si tu veux faire un holocauste, offre-le à l'Éternel. » Offre-le à l'Éternel. Il y a des moments lorsqu'on demande quelque chose à Dieu dans sa présence. C'est important de lever un autel, dresser un autel, poser un acte et dire, « Seigneur, je vais offrir un holocauste. » Pourquoi? Parce que le Seigneur il a vraiment à cœur. Il tient compte. L'autel a une importance pour le Seigneur. L'autel a une importance pour le Seigneur. L'autel, ça peut être une offrande spéciale que j'offre à l'Éternel. L'autel, ça peut être 3 jours de jeûne que je décrète pour être dans la présence du Seigneur. L'autel a une importance pour le Seigneur. Avant qu'il ne s'en aille, au verset 17, il lui pose une question essentielle. Il lui dit, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» On retrouve un peu cette histoire avec Jacob. Lorsque l'ange de l'Éternel parle à Jacob, Jacob lui demande, « Quel est ton nom ?» Avant qu'il ne lui demande, « Quel est ton nom ?» Jacob lui a d'abord demandé, l'ange de l'Éternel lui a d'abord demandé, « Quel est ton nom ?» Il dit, « Jacob, on ne t'appellera pas plus Jacob, on t'appellera Israël. » Jacob dit que ça ne se passera pas comme ça. Quel est ton nom toi aussi? Toi aussi, quel est ton nom? C'est important que dans... Il y a des moments comme ça dans notre vie où le Seigneur se manifeste d'une façon extraordinaire. Et il y a des moments où on rencontre l'ange que l'Éternel a mis sur notre passage. Manoah était en train de prier et pendant qu'il priait, Dieu envoie un ange vers sa femme. Et c'est important de savoir quel est l'ange que Dieu a envoyé. Bien-aimé, c'est très important. Il y a des moments, je vous assure, où Dieu envoie spécialement un ange pour nous secourir. Et c'est important de connaître quel ange Dieu a envoyé vers nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les anges sont des messagers que Dieu envoie pour nous servir. Il envoie des messagers pour nous servir, pour nous aider à être délivrés de nos oppresseurs. Pour nous aider, il y a des moments où on passe des temps d'intercession pour un problème. Dieu envoie des anges pour agir en notre faveur. Il envoie des anges. Pourquoi c'est important de connaître les anges que Dieu envoie? Pourquoi c'est important de connaître? Lorsque Jacob a parlé à Joseph, il a dit à Joseph dans ses derniers jours, lorsqu'il prophétisait sur ses enfants, il a dit à Joseph, quand il était en train de parler à Manassé et à son frère Éphraïm, quand il a parlé à Joseph, il a dit que l'ange, que mon ange qui m'a accompagné partout où je suis allé, qu'il vienne à ton secours. Il y a des anges qui sont à notre service, mais il y a des anges supplémentaires que Dieu envoie dans des moments bien particuliers. C'est important de connaître ces anges-là. Pourquoi? Parce que lorsque je suis en danger, lorsque je me retrouve là en train de ramer, j'ai des problèmes, je dis, Dieu m'a secouru à un moment bien précis. Seigneur, je prie que tu envoies cet ange. Je veux que tu envoies cet ange pour intervenir en ma faveur. Pourquoi? Parce qu'ils sont à mon service. Bien-aimé, pour découvrir ces choses, c'est dans la présence de Dieu. Ce n'est pas du spiritisme, ce n'est pas du mysticisme, je vous assure. Ce sont des choses extraordinaires qu'on découvre dans la présence du Seigneur. Pourquoi est-ce que souvent les patriarches ont appelé le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham? Pourquoi? Parce que leur père leur ont parlé de ce Dieu-là. Et à chaque fois qu'ils ont eu besoin de ce Dieu, eh bien, ils ont fait appel au Dieu de Jacob, au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac. Et c'est le Dieu de leur père à chaque fois qui s'est manifesté pour venir à leur secours. Et c'est pareil pour nous. Il y a des anges que Dieu envoie à notre secours. Et c'est important. Je disais à l'église de Luxembourg qu'il y a des moments, quand le Saint-Esprit se manifeste, il a en face de lui 3 catégories de personnes. Il y en a qui savent que le Saint-Esprit est présent et qui ne sont pas très favorables à son action. Comme par exemple au Luxembourg, quand je suis partie au Luxembourg, il n'était pas question qu'on m'appelle pasteur. C'était un peu un séminaire incognito. C'était un film, ce séminaire. Il ne fallait surtout pas qu'on dise que je suis pasteur. Il ne fallait surtout pas que je prêche le dimanche, d'où la présence du mari. Il fallait que le mari vienne pour prêcher le dimanche. C'était un séminaire compliqué. Même avant de partir, c'était difficile de voyager. Jusqu'au dernier moment, il y avait des problèmes pour voyager. Aujourd'hui, il y a le chauffeur. Demain, il n'y a pas le chauffeur. Après-demain, il y a le chauffeur. Il n'y a pas de chauffeur. À l'aéroport, on nous dit non, le monsieur ne voyage pas. Pourquoi le monsieur ne voyage pas? Eh bien, parce que son titre de séjour est en renouvellement. Donc, il a un récépissé. Il faudrait que son récépissé soit valable 3 mois après la date de sortie du Luxembourg. Une aberration. On lui pose bien la question, est-ce que c'est après la date d'entrée? Non, après la date de sortie. Mais pourquoi il faut qu'il soit valable 3 mois après, je suis en train de sortir du pays? Non, il ne part pas. Je regardais la dame dans les yeux, je lui ai dit que je ne voyage pas sans mon mari. Je ne sais pas ce qui m'attend dans ce pays. Ce voyage est compliqué depuis le début. Je ne pars pas sans mon mari. Vous partez chercher votre chef ou je ne sais pas, mais il part. La dame dit, non, ce n'est pas possible. Je dis, appelez votre superviseur si vous voulez. Je vais appeler mon superviseur. Je dis, appelez votre superviseur. Le superviseur, bien calé, la dame vient bien sapée, hein? En bleu. Dit, non, ce n'est pas possible, c'est les règles, etc. Je dis non, vous pouvez, si vous voulez savoir si on est en situation régulière, puisque c'est vous qui avez besoin de savoir, vous appelez la préfecture, ou je ne sais pas, mais c'est vous qui vous débrouillez, mais il faut qu'on voyage. Et elle commence à râler en disant, ah non, il fallait être en règle. Je dis, hein? On a des têtes de personnes qui sont en situation irrégulière ou quoi. En plus, on a un titre de séjour. Je dis, vous partez, vous appelez votre chef, je ne sais pas qui, mais la personne qui est au-dessus de vous, parce qu'il faut qu'on voyage. Ils ont fermé l'enregistrement, tout était bloqué, bien écrit, terminé. Alors, le monsieur qui s'occupe des bagages, à chaque fois, il les appelle et tout, dit non, il y a 2 passagers, on ne sait pas s'ils vont partir. Le gars s'amène avec son talkie-walkie. Et il demande, mais c'est fermé l'embarquement, c'est terminé. Dieu faisant bien les choses. L'avion ne pouvait pas décoller parce qu'il y avait du brouillard à Francfort. Il y avait du brouillard, alors l'avion ne devait pas décoller. Je disais, mais tout le monde ne va pas partir, tout le monde va rester. Si mon mari ne part pas, tout le monde reste. Et la dame va pour voir son chef, leur chef, je ne sais pas qui. Elle, c'était la superviseuse ou superviseur, je ne sais pas. Et elle est allée voir la personne qui était au-dessus d'elle. Et quand elle revient, au lieu de nous parler, elle parle aux autres. Non, mais en fait, c'était parce que machin. Au lieu de nous dire que la situation est réglée, non, elle se met dans le coin maintenant. Elle avait honte de parler. Tellement elle était gênée. Et je vous assure, comme je disais, pour revenir justement à ce séminaire au Luxembourg, je disais aux églises du Luxembourg qui étaient présentes, au-delà du fait que le séminaire devait être caché, je vous assure qu'il y a eu près de 300, 400 personnes. Le Saint-Esprit est descendu sur les enfants. Le Saint-Esprit est descendu sur les gens de façon extraordinaire. Ils se demandaient ce qui était en train de leur arriver. C'était un ensemble d'églises des ADD. Seulement, l'église qui organisait n'avait pas le droit. Tous les jeunes qui organisaient ce séminaire, les jeunes enfin, qui organisaient ce séminaire n'avaient pas le droit de passer l'annonce dans le reste des églises. Leur pasteur leur a dit, bon, c'est juste pour vous faire plaisir que je vais vous laisser faire le séminaire. Mais vous ne faites pas prêcher la femme le dimanche et vous n'annoncez pas le séminaire partout. Je leur ai dit que quand le Saint-Esprit se manifeste, les 3 catégories de personnes qu'il a en face d'elle, en face de lui, c'est qui? C'est cette catégorie de personnes qui dit le Saint-Esprit est en train de se manifester. J'aime pas trop ce genre de manifestation. C'est pas normal que les gens pleurent dans la présence de Dieu. C'est pas normal que les gens tombent, etc. Il y a une autre catégorie de personnes qui a tellement soupiré après ces choses et qui les vit à fond. La 3e catégorie de personnes, cette 3e catégorie de personnes bien-aimées, vraiment, ne faites pas partie de cette catégorie. C'est celle-là, quand le Saint-Esprit est descendu, n'est même pas au courant que le Saint-Esprit est présent. Leur cas est encore plus grave. Et je vous assure, et il y a des moments comme ça, il y a un ange qui opère un miracle en notre faveur. On n'est même pas informé qu'il y a un ange que Dieu a envoyé. Les patriarches ont dit à leurs enfants, connais le Dieu de ton père. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là, il est grand. Et c'est dans sa présence qu'il faut le connaître. C'est dans sa présence. Dans sa présence. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager ce soir. Que l'on connaisse vraiment une dimension extraordinaire dans la présence de Dieu. Que l'on vive des choses extraordinaires de façon personnelle. Personnelle d'abord. C'est bien ce qu'on vit à l'église, mais il faut qu'on le vive d'abord de façon personnelle. Plus on va vivre des choses dans notre secret avec Dieu, plus on va vivre des choses dans l'église. Les païens ont créé un adage là, et ils disent maintenant que ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit que telle ou telle autre chose va se faire. Eh bien, bien aimé, c'est par l'opération du Saint-Esprit qu'on connaît Dieu. C'est par le Saint-Esprit. Un homme peut nous montrer les voies, mais je vous assure, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous faire découvrir la présence de Dieu. J'aimerais qu'on se lève, on prie ensemble. Que chacun prie pour sa vie ce soir.